Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphren.
Chaque année, 13 millions de personnes sont concernées par des troubles psychiques et pourtant, on s'intéresse peu, alors quand je dis « on », j'imagine que ce sont les pouvoirs publics, à la santé mentale des Français. Des acteurs, médecins, directeurs d'hôpitaux souhaitent faire de la psychiatrie une grande cause nationale. La situation est tendue sur ce terrain puisqu'il y a plusieurs indicateurs qui montrent ces dernières années, par exemple, notamment autour de la mortalité infantile ou de la santé mentale des jeunes, qui montrent que la situation a tendance à se dégrader. Alors Florian Portabonnette est avec nous, il est médecin psychiatre, chef de service au centre hospitalier Charles Perrins de Bordeaux, et il a coordonné cet ouvrage monumental qui s'appelle « La santé mentale en France », publié aux éditions LEH. C'est préfacé par Boris Cyrulnik avec ce bandeau tonitruant « Faire de la psychiatrie une grande cause nationale ». Bonjour Florian Portabonnette.
Bonjour Louis Dauphren, merci pour votre invitation.
C'est moi qui vous remercie d'être des nôtres ce matin. Alors peut-être peut-on déjà délimiter les contours de ce qu'est la psychiatrie, la santé mentale, les troubles psychiques, tout ça c'est synonyme ?
Oui, c'est une question intéressante. Alors, si vous voulez, psychiatrie et santé mentale sont deux termes qui sont largement utilisés et en fait pas tout à fait synonymes. Quand on parle de psychiatrie, on parle spécifiquement de pathologies psychiatriques et des soins qui sont liés à ces pathologies. Quand on parle de santé mentale, on élargit la question psychiatrique, finalement, à la fois, certes, à la maladie psychiatrique, mais plus largement au bien-être psychique. Donc autant la psychiatrie concerne la maladie, autant la santé mentale finalement nous concerne tous.
Comment mesure-t-on la santé mentale d'un pays ?
Vaste question, là encore, la première façon de mesurer la santé mentale dans un pays, c'est de se baser sur certains indicateurs, notamment concernant les maladies. Force est de constater qu'ils ne sont pas rassurants. Un Français sur cinq est concerné par un trouble psychique en France. Il y a toujours dans notre pays une tentative de suicide toutes les 4 minutes et un suicide abouti toutes les 40 minutes.
Et la situation s'est aggravée depuis le Covid.
Exactement. On voit clairement, si vous voulez, qu'il y a un avant-Covid et un après-Covid. C'est-à-dire que la crise sanitaire de la Covid-19 a agi comme un catalyseur. Une question qui était finalement assez peu présente dans le débat public avant la crise sanitaire est devenue omniprésente. Il y a un avant et un après-Covid.
Peut-on distinguer psychose et névrose, Charles Florian Bonnette ? Florian Portabonnette, pardon, excusez-moi.
Intéressant de revenir à ces fondamentaux, finalement, de la clinique psychiatrique. Alors, les termes de névrose et les termes de psychose sont en fait des termes un petit peu anciens qui sont relativement peu utilisés aujourd'hui.
C'est moi qui suis ringard.
Je n'osais pas vous le dire. Dans les théories classiques, la névrose concerne en fait tout ce qui est du domaine de la dépression et des troubles anxieux, alors que la psychose concerne ce qui est du domaine de la perte de contact avec la réalité. On parle aujourd'hui de schizophrénie ou de troubles psychotiques. C'est ça, en fait, la différence.
Donc c'est plus grave, la psychose, que la névrose en soi, non ?
Pas forcément. Il y a des névroses très graves, des dépressions très graves, des troubles anxieux très graves. Donc pas vraiment de questions quantitatives entre ces deux catégories.
Quelle est la grille de lecture moderne, alors, de la psychiatrie ?
La psychiatrie est une discipline assez hétérogène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grille de lecture, il y en a en fait plusieurs. C'est ce qui fait à la fois le charme et à la fois peut-être la difficulté de cette discipline. Le plus consensuel est de séparer les grands troubles psychiatriques entre, j'allais dire, trois catégories principales. Les troubles de l'humeur, je pense ici à la dépression extrêmement fréquente et aux troubles de l'humeur bipolaire. Premièrement. Deuxièmement, les troubles anxieux. On peut citer ici l'anxiété sociale ou le TOC, le trouble obsessionnel compulsif. Et puis enfin, les troubles psychotiques avec, en chef de file, la schizophrénie. Voilà, c'est peut-être les trois grandes catégories. Il y en a plein d'autres. En fait, il y a une autre Bible qui est le DSM-5, qui est un ouvrage de la psychiatrie américaine, contesté et contestable, qui recense en fait plusieurs centaines de troubles. Donc là, je vous en livre une vision synthétique.
Quand vous dites, Florian Portabonnette, qu'il faut une grande cause, il faut faire de la psychiatrie une grande cause nationale. Qu'est-ce que ça veut dire ? La dernière grande cause, me semble-t-il, c'était Jacques Chirac avec la lutte contre le cancer. Il y avait eu cette grande cause qui avait été aussi, mais ça remonte à quelques années. Qu'est-ce que cela induit, en fait ?
Quand nous avons commencé à réfléchir à cet ouvrage avec mon co-coordinateur, que je veux ici saluer, Aurélien Vautard, qui est directeur des affaires médicales au centre hospitalier Charles Perrins de Bordeaux, on s'est rapidement dit qu'on partait d'une situation compliquée et que face à une situation compliquée, soit on continuait à la subir pendant le restant de notre carrière, elle est encore longue, soit on faisait quelque chose pour agir et pour changer. Et ce quelque chose pour agir et pour changer, on s'est dit qu'il fallait que ça passe par une mobilisation très large, de l'ensemble de la société, de l'ensemble des ministères, de l'ensemble des institutions, au fond, une mobilisation nationale. Et c'est de là que nous est venue cette implication dans la santé mentale, la psychiatrie, grande cause nationale. Par exemple, pour répondre précisément à votre question, l'idée de la santé mentale dans toutes les politiques. Nous aimerions que toutes les politiques publiques, sans exception, soient évaluées à l'aune de leur impact sanitaire, premièrement, et plus précisément de leur impact sur la santé mentale. C'est déjà fait dans certains pays comme le Canada et plus particulièrement au Québec. Une des propositions parmi tant d'autres.
Expliquez-moi justement quelle politique pourrait être évaluée de cette manière. Comment pourrait-on juger de la pertinence de cette politique selon ces critères ?
Voyez par exemple, si l'on parle, et peut-être qu'on y reviendra au cours de notre entretien, des addictions. Vaste problème, problème de santé publique, problème de santé mentale, problème de psychiatrie et d'addictologie. Nous avons dans notre ouvrage un chapitre écrit par Nicolas Prisse, qui est médecin et qui est le président de la MILDECA, qui est la mission interministérielle de lutte contre les conduites addictives et qui dépend du Premier ministre. Ce que nous dit Nicolas Prisse, c'est que au-delà de la question des addictions, la première façon et la façon la plus efficace de prévenir l'apparition d'addictions chez les ados, c'est de jouer sur le terrain de l'école, du collège et du lycée, et notamment par ce qu'on appelle l'entraînement aux habiletés sociales. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aux enfants, aux adolescents, à gérer leurs émotions, à gérer leur anxiété, à interagir de façon apaisée les uns avec les autres. Voilà. Et que, ici, politique croisée entre la santé et l'éducation, pour cet exemple, c'est ça qui marche le mieux.
Les écrans, les réseaux sociaux, si je vous invitais ce matin, c'est aussi pour savoir si la santé mentale est directement liée, s'il y a une porosité entre notre état de santé mentale, et je le présume, et l'état social, en fait, les influences que nous subissons, auxquelles nous ne pouvons échapper. Je parlerai simplement, par exemple, de la Nouvelle-Calédonie. Vous savez que TikTok avait été levé, l'usage de TikTok avait été levé en Nouvelle-Calédonie pour que les émeutiers ne puissent pas se concerter et donc accroître le phénomène de violence. Est-ce qu'il faudrait lever, avoir une sorte de moratoire sur ces réseaux sociaux, type TikTok, justement, parce que cela crée, en particulier chez les jeunes, des phénomènes addictifs graves?
Vous avez raison, Louis Dauphren. La question du numérique et plus précisément des écrans et encore plus précisément des réseaux sociaux est, je le crois, le fait majeur pour la santé mentale de nos jeunes et de nos adolescents. La société est confrontée à quelque chose à laquelle elle n'avait jamais été confrontée auparavant. L'usage des écrans du numérique et des réseaux sociaux est majeur avec toutes les implications que ça a. La réduction du temps de sommeil, on n'a jamais aussi peu dormi dans notre monde, dans toute l'histoire de l'humanité quand même, avec également des phénomènes, par exemple pour les adolescents, de harcèlement qui sont démultipliés, et avec enfin des phénomènes d'addiction qui sont réels. Vous voyez, on parlait de santé dans toutes les politiques. Il y a en ce moment une actualité politique entre la Commission européenne et entre les géants du numérique et des réseaux sociaux, précisément pour limiter la présence des réseaux sociaux chez nos adolescents. Vous savez, quand vous allez sur plusieurs réseaux, il y a un phénomène terrible qui est que quand vous lancez une vidéo, eh bien automatiquement, une autre va se lancer, et cela de façon indéfinie. Pour un cerveau adolescent, c'est terrible. Il faut légiférer pour limiter ça. Au moins chez le public jeune.
Il y avait un patron de réseau social, je ne sais plus duquel il s'agit, qui disait « Mon concurrent, mon ennemi, c'est le sommeil, et je suis en train de gagner. »
Voilà.
Quelle mesure,
terrible illustration.
La part de sommeil réduite chez les jeunes. Vous en avez parmi vos patients ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'on ne se rend pas compte de l'imprégnation considérable et du monde virtuel qui est en train de s'installer au détriment du monde réel. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que c'est plus de virtuel, mais pas plus de virtuel seulement, c'est plus de virtuel et moins de réel, moins d'interaction sociale. C'est majeur dans la genèse des troubles psychiatriques chez l'adolescent et chez le sujet jeune. On parlait du sommeil. On a perdu, entre le 19e siècle et aujourd'hui, en 2024, on a perdu plusieurs heures de durée de sommeil. Considérable, considérable.
Alors, à l'autre bout de la chaîne, Florian Portabonnette, il y a les personnes âgées. Ces personnes âgées, elles-mêmes, sont dans un état de santé mentale plutôt dégradé. On observe en particulier que c'est dans cette catégorie-là que le taux de suicide est le plus élevé. Et je ne parle pas des questions de fin de vie sur laquelle on a l'occasion de revenir régulièrement sur notre antenne. On le fera encore demain. Je voudrais simplement parler des personnes âgées et de leur santé mentale. Vous, quels indicateurs avez-vous ?
Oui. Nous avons voulu, et notamment dans notre ouvrage avec Aurélien Vautard, consacrer un chapitre à la santé des personnes âgées. Nous ne voulons pas qu'on oublie la santé des personnes âgées. Oui, il y a la question de la jeunesse et de l'adolescence, elle est importante, on en a parlé, mais il y a aussi la question de l'âge. Rendez-vous compte, en 2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans. C'est-à-dire que nous sommes, le 21e siècle est un siècle d'une transition démographique, là aussi tout à fait considérable et tout à fait inédite. Et donc là aussi, très simplement, soit on se prépare à cette transition démographique, soit on la subira et on la subira mal. Savez-vous par exemple, on pourrait parler des EHPAD, c'est un vaste sujet. Savez-vous par exemple que lorsque des études sont faites dans les EHPAD, on estime que une personne sur deux, un résident sur deux dans les EHPAD est concerné par une dépression, c'est-à-dire par d'authentiques symptômes dépressifs. Et je suis chef d'un service qui comprend une équipe mobile qui va faire de la psychiatrie dans les EHPAD, là où bien souvent il n'y a plus personne. Vous voyez, donc, la santé des âgés, enjeu démographique, enjeu de santé publique et malheureusement, enjeu auquel aujourd'hui, en 2024, on est assez peu préparé.
Se confie-t-elle sur l'absence de lien avec la famille, sur leur isolement et sur peut-être aussi le besoin d'en finir ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui revient dans les entretiens que vous avez ?
Ce qui domine la clinique des personnes âgées et notamment des personnes très âgées, qui est plutôt le public que je vois, c'est en effet la clinique de la perte. Alors, perte de l'autonomie, perte de la santé, perte d'un proche avec le deuil, perte de l'activité professionnelle et finalement perte du sens et du sens de la vie. Je pense que la perte est vraiment le mot-clé, l'enjeu clé de la clinique de la personne âgée. Alors, bien évidemment, c'est pas facile d'avancer en âge, mais là encore, il faut que toute la société, et je pense notamment à l'enjeu de l'accompagnement au sens plus large, avec la question des EHPAD, se mobilise pour le bien-être de nos personnes âgées.
Le questionnement métaphysique, Florian Portabonnette, est-ce qu'il affleure aussi quand on atteint un certain âge et qu'on se dit qu'on va passer de l'autre côté ? Est-ce que c'est quelque chose qui revient dans les discussions ? Est-ce que vous l'intégrez même dans une formation ? Est-ce qu'on est formé à ça quand on est médecin psychiatre ?
Le questionnement métaphysique, en fait, est présent à tous les âges. Il est évidemment davantage présent quand on avance en âge, sans doute, mais en fait, il est présent tout le temps. Il est présent tout le temps en pratique et finalement assez absent de nos formations. C'est-à-dire que la question de la spiritualité au sens large, qu'elle soit d'ailleurs religieuse, n'importe quelle religion ou pas, est absente de nos formations. Dans le bouquin, nous avons souhaité consacrer un chapitre qui a été écrit par le docteur Jacques Besson, qui est un psychiatre suisse et qui a été superviseur des aumôniers de la région de Suisse romande, qui interroge les liens entre psy et spi, c'est-à-dire entre psychiatrie, psyché et spiritualité. Et il nous a écrit un chapitre à la fois étonnant et passionnant, où il nous parle notamment du rôle et des bienfaits de la méditation et de la prière. Je reviendrai sur la méditation. Vous savez que lorsqu'on pratique une activité de méditation, là aussi, quelle qu'en soit la polarisation, on observe un retentissement, y compris dans nos examens, absolument étonnant. Quand on fait un électroencéphalogramme, qui est un examen qui enregistre l'activité électrique des neurones, on voit qu'une activité de méditation va diminuer l'activité cérébrale dans le sens d'une baisse de l'anxiété. Voyez,
ça montre le moine bouddhiste Maturika. Vous avez peut-être vu ça.
Exactement, exactement. Méditation au sens large, spiritualité au sens large. Oui.
Jacques Besson en parle dans les termes suivants. Sur le plan théologique, méditation et prière sont tout à fait différentes. En effet, la méditation est dite unitive, c'est-à-dire qu'elle relie le sujet au monde, lui donnant l'impression de faire partie du tout. La méditation permet d'accéder à un espace sans espace et hors du temps, une sorte de verticalisation de l'instant. La prière, quant à elle, est d'un autre registre, le registre dialogique et relationnel. La prière mobilise des zones corticales responsables des relations interpersonnelles. La relation s'inscrit non pas dans une ligne unitive comme la méditation, mais dans une ligne dialogique. C'est-à-dire que la prière est fondamentalement dans la relation, alors que la méditation peut se retrancher de la relation. C'est ça que ça veut dire, selon Jacques Besson.
Oui, 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 tout à fait. C'est ce que Jacques Besson nous explique dans son chapitre. Et si vous voulez, il y a quand même quelque chose de surprenant et d'intéressant qui nous dit, c'est que lorsqu'on se livre à une activité de prière, ce que Jacques Besson sous-entend, c'est que les zones cérébrales qui sont activées sont les mêmes que celles qui sont activées quand vous et moi parlons. C'est-à-dire que ce sont les zones de la relation interpersonnelle qui sont activées, ce qui conforte son idée, finalement, de prière, dialogue. Vous voyez, c'est ça qui développe, et plus largement, et c'est important, de lien entre spiritualité et science et neurosciences, et c'est finalement ça dont il parle, Jacques Besson.
Et ça, il y a encore beaucoup, j'imagine, il y a un univers entier à découvrir. On parlera bientôt aussi des expériences de mort imminente, de ces questions-là qui montrent que nos sens ne se résument peut-être pas au fait de voir ou de percevoir, et qu'à l'extérieur de la conscience, on peut continuer à exister, ce qui est quand même très surprenant. Mais c'est un autre sujet, Florian Portabonnette, mais qui montre qu'il y a des perspectives incroyables à découvrir. Je voulais en venir, il nous reste quelques minutes, je voulais en venir, Florian Portabonnette, aux questions d'identité. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, dans notre société, le questionnement identitaire prend des proportions peut-être, disproportionnées, ou alors c'est le prisme médiatique qui fait ça. Alors je ferai allusion simplement à l'actualité immédiate avec le Sénat qui a démarré hier l'examen d'un texte qui vise à encadrer les transitions de genre avant 18 ans. C'est une initiative des Républicains, de la sénatrice LR Jacqueline Eustache-Brinio, et qui vise en particulier à avoir un contrôle strict des prescriptions de bloqueurs de puberté, ces molécules qui permettent de suspendre le développement des caractères sexuels secondaires. Qu'est-ce que vous dites sur un sujet comme celui-ci ?
Bien évidemment, la question de la transidentité et des transitions de genre que vous évoquez, avec une actualité législative au Sénat que vous avez mentionné, est une question complexe et polymorphe. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que dans la clinique psychiatrique, c'est-à-dire que dans la pratique psychiatrique courante, cette question-là, elle était résiduelle, c'est-à-dire extrêmement minoritaire et rare il y a une dizaine d'années.
Ce qu'on appelle la dysphorie de genre.
Exactement, ce que le DSM-5 notamment appelle la dysphorie de genre, vous avez raison. Et d'une place finalement marginale, elle est devenue très prégnante dans la clinique, et notamment dans la clinique adolescente et du jeune adulte, aujourd'hui, en 2024. Donc, il y a bien eu une évolution statistique, épidémiologique, dont les facteurs sont sans doute encore largement à questionner, mais cette évolution, elle est réelle. À mon avis, si vous voulez, la question de la transition de genre, elle s'inscrit plus largement dans une époque qui est marquée par un questionnement identitaire. Et finalement, par une interrogation autour de son identité, autour des identités, qui, sans doute, n'a jamais été aussi forte que maintenant. Vous savez, j'ai lu, et je pense qu'on peut ici le citer, ce politologue, Jérôme Fourquet, qui a écrit « L'archipel français », et qui dit qu'au cours, finalement, du XXe siècle, on a assisté à un effondrement des grands systèmes, des grandes matrices qui tenaient la société, qui faisaient intégration. C'est, par exemple, l'effondrement des grands partis politiques, l'effondrement des grosses centrales syndicales, l'effondrement... Bref. Et, si vous voulez, Jérôme Fourquet dit que cet effondrement, finalement, des grands systèmes culturels a laissé place à une sorte d'individualisation sans guide, individualisation sans modèle, sans référence, qui est source profondément de questionnements identitaires. Dans son chapitre, et je reviens sur notre discussion de tout à l'heure, Jacques Besson convoque un psychanalyste, un dénommé Frankl.
Viktor Frankl, c'est passionnant.
Exactement. Il parle d'une notion géniale, qui est la notion de névrose de civilisation. Alors Freud lui-même avait parlé du malaise dans la civilisation, et donc Frankl, dans une publication beaucoup plus récente, parle de la névrose de civilisation. Il fait le constat d'un vide existentiel qui est marqué par de la dépression, de l'addiction et des agressions. Je pense que ça fait écho avec notre société. Vous voyez, c'est une
sorte... agressions, c'est-à-dire on agresse parce que on est dans un état de mal-être profond.
Exactement, exactement. Et on agresse parce qu'au fond, les grands systèmes, les grandes matrices, les grandes valeurs qui sous-tendent un individu, se sont en quelque sorte affaissées. Vous savez, c'est le roman de Houellebecq, Sérotonine. Voilà, cet effondrement de tout. Dépression, addiction, il en parle et on peut rajouter agression chez Frankl.
La psychiatrie qui doit devenir une grande cause nationale, comment, selon donc ces auteurs, il y en a 114 dans cet ouvrage très important, Florian Portabonnette, comment vous adaptez-vous à ces mutations considérables de la société en fait? Est-ce que la psychiatrie dans sa formation intègre ces éléments? J'imagine que oui, mais comment faites-vous sur cette question identitaire pour prendre le train en marche, sachant que les choses vont très vite?
La psychiatrie, en effet, fait l'objet à la fois d'une formation initiale qui évolue et en même temps d'une formation continue tout au long de la vie qui nous permet à nous, professionnels de santé, de nous former de ces grands enjeux. Mais permettez-moi quand même de revenir à ce sujet sur une autre de nos propositions. Les professionnels de la santé mentale ne sont pas assez formés aux questions de société. C'est-à-dire que la psychiatrie, malheureusement, s'est parfois coupée des sciences humaines, des sciences sociales, peut-être aussi de la philosophie, peut-être aussi de la spiritualité. L'avancée de la psychiatrie a parfois vu le recul de ces disciplines-là dans la formation des psychiatres. Or, ce sont ces disciplines qui permettent précisément de vivre avec le pouls, voyez, de la société. Et ce livre, qui est un livre d'ouverture, milite justement pour que on prenne davantage en compte cela. Cet esprit d'ouverture, c'est celui que nous avons voulu, avec Aurélien Vautard et notre comité éditorial, impulser au sein de notre hôpital. Et je veux aussi ici saluer son directeur Thierry Bier et son président de CME Sébastien Gard, qui nous ont permis cette pépinière de connaissances, de savoir pour parler de ces sujets.
Il y a une mobilisation tout à fait considérable qui se retrouve dans cet ouvrage. Je rappelle, 114 acteurs se sont mobilisés. Florian Portabonnette, pourquoi avez-vous choisi ce métier? C'est une vocation?
C'est une très bonne question. Alors, un célèbre et un ancien psychiatre disait « On fait médecine pour faire plaisir à ses parents, on fait psychiatrie parce qu'on ne peut pas toujours faire plaisir à ses parents ». Je n'irai pas dans cette analyse quasi psychanalytique. Ce qu'offre la psychiatrie, fondamentalement, c'est un art de confluence, si vous voulez. Et c'est ça, moi, qui m'a intéressé. C'est-à-dire que oui, c'est une discipline scientifique. Celui qui veut s'éclater dans les neurosciences, il le peut, dans le cerveau et les 100 milliards de neurones, 100 milliards que nous avons, il le peut. Mais celui qui veut faire de la socio, qui veut faire de la philosophie, qui veut s'intéresser à la spiritualité, qui veut s'intéresser à la psychologie au sens large, il le peut aussi. C'est ça qui est fascinant, je trouve.
Dans cette Donc discipline. C'est loin d'être une discipline en fait cloisonnée, comme on pourrait l'imaginer, à l'image de l'univers clos de Vol au-dessus d'un nid de coucou, par exemple, du film de Miloš Forman, qui sert peut-être de référence culturelle. Et c'est au contraire une sorte de plateforme qui est en contact avec la société, évidemment. Merci Florian Portabonnette pour ces éléments de compréhension et de la psychiatrie. Et puis, bien sûr, tout ce que nous avez fait partager, c'est à retrouver dans La santé mentale en France. C'est aux éditions LEH. C'est vous qui avez coordonné cet ouvrage, pardon, qui est préfacé par Boris Cyrulnik.
Merci, voilà,
je suis arrivé. Merci et bonne journée.